Le Coran, résumé et conclusion. Les faits que nous a révélés l'étude des chapitres de Médine suggèrent quelques conclusions importantes. Il n'est pas rare de comparer le Coran au Pentateuque et d'affirmer que chacun est la loi en même temps que l'évangile de ses croyants. La ressemblance est plus étroite qu'on le suppose communément. De même que les Juifs ont négligé leur Pentateuque en faveur du Talmud, les Musulmans ont laissé de côté le Coran pour les traditions et les décisions des docteurs. Nous ne voulons pas dire qu'un homme étant auquel on demandera quel est le livre de sa religion répondrait autrement qu'en indiquant le Coran. Mais nous voulons dire qu'en fait, ce n'est pas le Coran qui guide sa foi et ses pratiques. Au Moyen-Âge de la chrétienté, ce n'est pas le Nouveau Testament, mais bien la Summa Theologica de Thomas Aquinas, Thomas d'Aquin, qui décidait les questions d'orthodoxie. Et de nos jours, le fidèle orthodoxe ne tire pas ordinairement sa foi de ses investigations personnelles de l'enseignement du Christ dans les évangiles. C'est précisément de la même manière que le mahométisme s'appuie sur des bases beaucoup plus larges que le Coran pur. Le prophète lui-même n'ignorait pas que ces révélations ne prévoyaient pas toutes les possibilités de l'avenir. Lorsqu'il envoyait Mhad au Yémen pour recueillir et distribuer des aumônes, il lui demanda quelle loi il voulait avoir pour guide. « La loi du Coran, » dit Mhad. « Mais si tu n'y trouves pas les principes nécessaires, alors j'agirai d'après l'exemple du prophète. Mais s'il manque... alors, je ferai une comparaison et j'agirai en conséquence. » Mohamed applaudit chaleureusement à l'intelligence de son disciple, et des déductions très importantes ont été tirées par suite de son approbation au système d'analogie. C'est toutefois le dernier ressort. Lorsque le Coran ne fournit aucune décision précise, les conversations privées de Mohamed, vaste corps de tradition orale soigneusement préservé et transmise, puis réunis et examinés critiquement, sont consultés. Et s'il n'y a rien d'analogue dans la Sunna, c'est le nom de ce corps de tradition, alors les annales des décisions par consentement général des pères sont le secours. La loi, dit Ibn Khaldim, est basée sur l'accord général des compagnons du prophète et de leurs disciples. Finalement, il y avait le principe d'analogie pour les guider si toutes les autres sources faisaient défaut. Au fait, les musulmans ne se livrent pas à des investigations laborieuses, mais se réfèrent à l'un ou l'autre des principaux ouvrages dans lesquels tout ceci a été fait pour eux. On s'aperçut bientôt qu'un système qui voulait légiférer sur toutes les parties de la vie, tout le développement des idées et des forces de l'âme, à l'aide du sunna et des déductions par analogie qui pouvaient en être tirées, elle est un système qui non seulement donnait toutes les tentations possibles pour fausser la tradition, mais encore deviendrait beaucoup trop embarrassant pour être pratiqué. Dès lors, ainsi que M. Seth l'a expliqué dans son admirable ouvrage sur la foi de l'islam, il devint nécessaire de systématiser et d'arranger ce chaos de tradition, décision et déduction, et de cette nécessité sortir les quatre grands systèmes de jurisprudence connus des noms de leurs fondateurs, le Hanafite, le Malikite, le Chanite et le Hanbalite, à l'un desquels appartient tout musulman orthodoxe. Les décisions de ces quatre imams, Abu Hanifa, Ibn Malik, Al-Shalbi et Ibn Hanbal, font autorité près de tout musulman sunnite. Il est de foi orthodoxe que, depuis des quatre imams, nul docteur n'a paru qui puisse leur être comparé en science et en jugement. Et, que ce soit vrai ou non, il est certain qu'aucun théologien ou juriste n'a surpassé leur digeste de la loi. Aucun compte n'est tenu des circonstances différentes dans lesquelles les mahométans sont maintenant placés. Les conclusions auxquelles ces imams sont arrivés au 8e et 9e siècle sont considérées comme également applicables au 19e siècle et un manuel populaire de théologie pour les musulmans de l'Inde déclare qu'il n'est pas légal de suivre quelque autre que les quatre imams. Et de nos jours, le Qadi ne doit donner aucun ordre et le Mufti aucun fatwa contraire à l'opinion des quatre imams. Telle est l'explication de la différence entre le mahométisme moderne et l'enseignement que nous avons pu tirer du Coran même. L'islam s'appuie sur nombre de colonnes, et le Coran n'en est pas la seule base. Une large part de ce que les musulmans croient et pratiquent maintenant ne se trouve en rien dans le Coran. N'entendons pas dire que les traditions de Mohammed, leur authenticité une fois admise, ne sont pas une aussi bonne autorité que le Coran. Et certes, entre le cas où le prophète professe parler des paroles de Dieu, comme dans ce livre, et les premières où il ne prétend pas, il y a guère de choix à faire. De même, ne prétendons-nous pas que les premiers docteurs de la loi ont fait preuve d'imagination en tirant leurs inductions et analogies, bien que nous ayons nos doutes. Tout ce sur quoi nous insisterons est que si c'est une erreur d'appeler le Coran le compendium théologique ou le corpus juris de l'islam, il n'est ni l'un ni l'autre. Ceux qui feuilletteront les pages de l'Edaya ou Code musulman de Khali, dont M. Seignet a publié réellement récemment une traduction française à Alger, verront facilement de quel minime secours est le Coran aux légistes musulmans, et combien peu des 2000 clauses de Khali peuvent être retracées jusqu'au livre de la loi supposé. De même, peut-on tourner et retourner du commencement à la fin et de la fin au commencement les pages du Coran pendant toute sa vie, sans y trouver la plus légère indication du formidable système de rituel qui est maintenant considéré comme une partie essentielle de la religion musulmane. Quant à nous, nous préférons le Coran à la religion telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui. Et sommes heureux de penser que nous ne sommes pas redevables de toutes les fautes de l'islam moderne au livre sacré sur lequel il est censé s'appuyer. Personne ne saurait lire sans émotion ce livre remarquable. Il y a dans le Coran une simplicité d'un genre spécial qui attire en dépit de ses répétitions et de sa tristesse. Aucun livre ne porte plus distinctement l'empreinte de l'esprit de son auteur. D'aucun autre peut-on dire aussi positivement qu'il est sorti du cœur sans préoccupation ni défiance. Tout inconsistant, contradictoire, ennuyeux et fastidieux qu'il soit souvent, le livre a une personnalité qui retient l'attention. Ce n'est pas un code de loi, encore moins un système de théologie, mais c'est quelque chose de mieux. Ce sont les paroles entrecoupées d'un cœur humain, complètement incapable d'hypocrisie, et ce cœur était celui d'un homme qui a exercé une influence extraordinaire sur l'humanité.